Nous sommes dans la série sur 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, rappelez-vous dans le chapitre 2, nous avons fait une série de messages pour savoir comment je peux être utile dans la maison de Dieu. Et quand Paul arrive dans 2 Timothée chapitre 3, il va changer de thème, il va se concentrer sur les derniers jours. Nous avons déjà commencé une ou deux messages là-dessus. Et nous allons continuer aujourd'hui, donc, le verset 2 et 3 plus précisément. J'aimerais, avant de continuer, lire ensemble le passage qui est devant vous. Il y a important, le peuple de Dieu ne doit jamais être ignorant des choses. Et l'impératif commence par « sache ». Sache. Et c'est ce que nous devons savoir. Et nous devons être attentifs à ce que Dieu a à nous dire sur ce qui est décrit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 3. Verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. » Verset 3, « Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Verset 4, « Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Aujourd'hui, nous allons nous concentrer juste au verset 2 et 3. Sache, mais qu'est-ce qu'on doit savoir? Nous avons déjà dit la dernière fois, on doit savoir que les derniers jours, qui a commencé depuis la première venue de Jésus, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son retour. Ça, c'est les derniers temps. C'est une période indéterminée. Et on doit savoir que les derniers jours seront des temps difficiles. Nous avons parlé la dernière fois. Et nous avons parlé aussi que les derniers jours seront difficiles à cause de ce fait qu'ils seront caractérisés par l'égoïsme. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Et il y a à peu près 19 traits de caractère de ces derniers jours, dans ce que nous venons de lire. Je me suis posé la question, mais on va aller jusqu'au mois de juin pour viser un à un ces traits qui caractérisent les derniers jours. C'est une bonne chose. Mais en priant, en cherchant de quelle manière on puisse avancer et aussi que ça puisse nous faire réfléchir sur ce que Dieu dit concernant les derniers jours, nous y sommes. Je suis allé regarder le texte à l'original en grec et c'est très intéressant. Parce qu'en fin de compte, ces mots-là ne sont pas là pour faire des effets stylistiques dans l'écriture. Mais ils sont là parce que Dieu l'a inspiré, l'auteur, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, pour dire ce que Dieu a à nous dire et que nous devions savoir. Et vous savez, c'est ce que nous allons faire ce matin. On va regarder 8 adjectifs ce matin. Et les points communs de ces adjectifs, c'est qu'ils sont commencés par un préfixe, on dit privatif. Je m'explique tout simplement. Quand vous dites moral, quel est l'opposé ou le contraire de moral? Amoral. Il y a le préfixe amoral. Ça veut dire absence de morale. Le privatif, donc, c'est le sens de sans ou l'absence d'une vertu ou quelque chose qu'elle est en train de dire. Je donne un autre exemple. Théiste. L'opposé, donc, c'est athéiste. Athéiste, il y a le préfixe « a » veut dire « ni l'existence de Dieu ». Et Dieu, comme je l'ai toujours dit, quand il révèle ses pensées, il se sert des outils que c'est la grammaire, les syntaxes, les verbes, les temps des verbes. Attention, pas dans les traductions que nous avons, mais dans la version originale en grec. Et quand on va regarder, on va voir qu'il y a 8 traits de caractère qui commencent tous par le préfixe « a » privatif. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. juste pour fixer les idées, je vous ai mis là. Et nous allons, vous avez qu'à regarder le verset 2 et verset 3, ces traits de caractère qui décrit les derniers jours. On lit au verset 2, rebelles à leurs parents. Là, vous voyez bien, à peito, donc à le préfixe privatif, peito, donc c'est le verbe ici, persuader. Et donc, quel est le sens de apeito? C'est refus de l'autorité parentale établie par Dieu. Les derniers jours seront caractérisés par ce qui vient d'être dit. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Ça veut dire que les enfants sont impies dans leur attitude envers leurs parents. Et les commandements que nous connaissons tous dans Éphésiens 6, versets 1 et 2, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. » Ça va être de plus en plus méprisé et ne seront plus respectés. Ça, c'est ce qui caractérise les derniers jours. Premier, donc, rebelle à Apeito. Nous lisons aussi dans le verset 2, « Ingrat, lui aussi, avec un préfixe, hein, A charizomai. Donc A, c'est le préfixe privatif. Charizomai veut dire faveur, grâce. Et donc, A charizomai, c'est le caractère qui ne manifeste pas de reconnaissance. Ingrat, c'est celui qui ne manifeste pas de reconnaissance. Donc, parle d'être sans reconnaissance. Et vous savez, le dictionnaire Larousse définit le mot ingrat. Qui méconnaît les bienfaits reçus et ne témoigne d'aucune reconnaissance à qui il les doit. Notre monde, de plus en plus, va être caractérisé par cela. Le dictionnaire Petit Robert, en parlant d'un ingrat, qui n'a aucun gré, aucune reconnaissance, qui manque d'agrément, de grâce. Vous voyez, à charizomai, faveur, grâce. Pourquoi? Réfléchissez un tout petit peu juste. Parce que les personnes ingrats pensent que tout leur est dû. Si tout leur est dû, à quoi être reconnaissant? Et notre monde va être caractérisé par cela. Jésus parle et enseigne que si le dernier jour sont caractérisés comme cela, nous ne devrions pas aller dans ce courant. Nous devrions nager à contre-courant. Et il a donné un enseignement. Luc 6, 35, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour qui? Pour les ingrats et pour les méchants. Ça, c'est le trait de caractère de notre Père Céleste. Et comme on dit, tel Père, tel Fils, nous devrions être comme cela, comme notre Père Céleste allait. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Peut-être que vous l'avez remarqué dans votre propre vie, que vous ne devrez plus être surpris, c'est écrit maintenant, que vous donnez beaucoup de votre temps, d'efforts, pour être une bénédiction envers les gens, et vous ne voyez rien. Pas de reconnaissance. La raison, c'est que c'est les traits qui caractérisent les derniers jours. Et c'est pour ça que la Bible dit aux croyants de tout faire comme pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est toujours reconnaissant pour ce qu'on fait pour lui. Et c'est la raison pour laquelle Paul écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Voilà, si le monde est caractérisé comme cela, nous devrions être à contre-courant de rendre grâce, dire merci, être reconnaissant en toutes choses. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ en ce qui nous concerne. Regardez, les troisièmes traits de caractère de ces derniers jours, irréligieux. Là encore, anosios. Osios, c'est saint. Le mot saint, l'adjectif saint. Et donc, irréligieux, c'est sans respect pour ce qui est saint. Pour les choses sacrées. Vous savez, ça, c'est pour nous préparer, parce que ces derniers jours, on va avoir des choses qui seront horribles et on ne peut même pas imaginer. On était aux États-Unis, par la grâce de Dieu, cet été, au mois d'août, on a eu le privilège d'être dans une assemblée où le pasteur de cette assemblée était venu en Écosse, à Édimbourg, et faire des visites des lieux où a été planté des églises à peu près plus d'un siècle. Et il visait un personnage qui s'appelle, est-ce que ça vous dit quelque chose, André Bonnard. Andrew Bonnard. C'est un pasteur qui était dans une des églises presbytériennes de l'époque il y a plus d'un siècle. Je passe les détails. Un homme de prière. Il a passé tout le long de sa vie, je ne vais pas trahir Wikipédia, le long de sa vie, à demander l'aide du Seigneur pour l'aider à mieux prier. Et vous savez, aujourd'hui, plus d'un siècle, cette église où a été comme pasteur André Bonnard, on ne peut plus imaginer que ça, c'est possible. Les gens sont irréligieux. Qu'est-ce qu'on voit? Il nous a montré, tout simplement, le dimanche matin, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu où était pasteur André Bonnard, plus d'un siècle. On voit des présentations de pièces de théâtre le dimanche matin. La place du culte, d'adoration qui doit être vouée à Dieu. Il n'y a plus de prédication de la parole de Dieu. Incroyable. Irréligieux, on sera surpris, mais on ne doit pas l'être, à voir ces derniers jours des choses comme ça. Et vous savez, ce n'est pas la volonté de Dieu pour notre assemblée. Ce n'est pas le pasteur uniquement qui doit veiller à ce que cette mentalité rentre dans l'Église. Chacun de nous tous ici, en tant que membre de l'Église, doit y veiller par sa propre vie, et ça ne rentre pas ici, de telle mentalité. Si nous voulons continuer à honorer et glorifier le Seigneur, ça c'est les caractéristiques des derniers jours. Et nous devrions lutter, faire tout nos possibles par la grâce de Dieu, de veiller à ce que chacun de nous n'en fasse pas entrer de telles choses dans la maison de Dieu. Vous allez me dire, oui là là, c'est vrai, bon l'histoire que tu nous dis, oui, mais dans la Bible on a vu la même chose. Est-ce que vous vous rappelez de l'église d'Éphèse? L'apôtre Paul passait 3 ans, jour et nuit, à enseigner dans cette église. Quand il a convoqué les anciens pour leur dire au revoir, les larmes étaient versées. Paul les a avertis de ce qui viendra. Vous savez, à peu près 30 ans plus tard, vous lisez ce qu'est devenu l'église d'Éphèse dans Apocalypse. Ça, c'est un avertissement pour nous. Combien on doit y veiller? Alors, que devons-nous faire? Exposer et condamner le mal n'est pas assez. Non, ce que le monde de ces derniers jours de ténèbres a besoin, ce sont des vrais chrétiens qui marchent plus fort qu'ils parlent. Des chrétiens qui aiment Dieu et le prouvent par leurs actions. Qui prennent la parole de Dieu au sérieux, au point d'en donner leur vie s'il le faut. Ça, c'est ce que Dieu cherche aujourd'hui. Si nous ne voulons pas être comme l'exemple que je viens de donner. Les derniers jours soient caractérisés par l'adjectif insensible. Astorgoï. Astorgoï vient du verbe stergo. Stergo, c'est un des mots grecs pour décrire l'amour. Vous savez que dans le grec, il y a l'amour philéo, parlons de l'amitié, l'amour eros, eros, sexuel, l'amour agapé, l'amour de Dieu qui se donne, qui se sacrifie, n'attend rien en retour. Et un dernier mot pour l'amour, stergo, c'est l'amour naturelle, familiale, envers les parents, envers les enfants et vice-versa. Donc, il parle de l'amour, affection familiale. C'est dit, on devrait être averti, un homme, une femme, être averti aujourd'hui. On doit se préparer à voir de plus en plus le brisement de l'amour à l'intérieur des familles du monde. Vous regardez autour de vous, aujourd'hui. Et vous savez, cette insensibilité, c'est pas que c'est notre époque. Plusieurs siècles avant, le prophète Michée avertissait déjà ses contemporains. En Michée 7, notez les versets 5 et 6. Cet brisement de l'amour à l'intérieur même du noyau familial, il avertissait ses contemporains. Michée 7, versets 5 et 6. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car les fils outragent le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Regardons aussi le prophète Jérémie parler à son époque, comment il était caractérisé de cette insensibilité qui touchait même le noyau familial. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi, tes frères. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Jérémie 12, 6. Terrible. C'est ce qui va caractériser notre époque dans les derniers jours. Et vous savez, il suffit que de regarder les médias. Cette conduite insensible nous est présentée chaque jour dans les journaux, dans les médias. On voit rapporter des maris et femmes s'abusent l'un de l'autre. Des parents et enfants s'abusent les uns les autres. Des maris et femmes qui s'abusent l'un de l'autre, j'ai dit, parfois jusqu'au meurtre. Je ne veux pas citer des affaires, mais vous le savez, ce qui se passe. Ça, c'est notre monde. Cette insensibilité qui agit même au sein de la famille. Et vous savez, les faits divers sont tellement rendus communs qu'ils sont seulement reportés. Ceux qui sont exceptionnellement brutaux et sensationnels. Vous vous rappelez de cette affaire de Ligonnès? Okay. Beaucoup d'exemples. Ça, c'est ce qui caractérise notre société de derniers jours. Alors, doit-on être effrayé? Non, il faut être un homme et femme averti. Mais nous avons la grâce de Dieu et j'encourage le peuple de Dieu, vous êtes parents. Chrétiens aujourd'hui, à entretenir dans votre famille et foyer une atmosphère, un esprit de communication ouverte, de grâce, de pardon, de bonté, d'amour inconditionnel et engagé envers chaque membre de votre famille. Cela, c'est vital. C'est vital. Et alors, de cette façon, votre foyer sera sans doute une lumière au milieu d'une société qui sont insensibles. L'affection naturelle qui devrait être naturelle, comme on dit, au sein d'une famille, sera brisée et disparaisse petit à petit. C'est ce qui est devant nos yeux. Et vous savez, si ce monde insensible et cette insensibilité va en crescendo, la parole de Dieu demande aux chrétiens l'attitude opposée. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Appliquez, ça c'est ce qui doit régir la relation au sein de l'église locale, mais aussi valable dans la relation au sein de la famille. Par honneur, usez de prévérence réciproque. Continuons. Il est dit l'adjectif ici, déloyaux. C'est aspendoi. Spendo, c'est implacable, irréconciliable. C'est-à-dire quelqu'un qui refuse d'être apaisé. Un cœur dur, inflexible. C'est quelqu'un qui veut toujours suivre leur chemin, maint avertissement, et qui s'endette. Dur. Hein? Ils seront sans pitié, implacables et brutaux dans leur relation avec les autres, déterminés, n'acceptent aucun compromis et ne pardonnent rien. Ça veut dire que les hommes seront sans cœur, totalement centrés sur eux-mêmes, insensibles, durs comme de la pierre, dépourvus d'affection même envers leurs proches. Vous savez, les déloyaux, d'après la définition ici, ce sont ceux qui refusent de changer, même si leur propre situation devient désespérée, encore moins la situation de ceux qui devraient se soucier. Ça peut nous toucher si rapidement. Il faut avoir un cœur sensible et un cœur enseignable. Que la parole de Dieu vous le permette encore de vous reprendre. Le point de limite non-retour, c'est que si vous arrivez à ce point à dire « Il n'y a plus rien à faire, je sais ce que j'ai à faire, je suis mon chemin, je n'écoute rien et personne. » Quoi faire dans cette situation avec des personnes déloyaux, sans cœur, qui est déterminée à tout prix à être inflexible? Oh, la parole de Dieu est pleine d'exhortations. Colossiens, je cite juste 3, 12 et 13. Comment faire face à de telles circonstances? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous savez, l'entraille de miséricorde, c'est les tripes, comme on dit. C'est au fond de soi-même avoir ce cœur qui est prêt à souffrir pour les autres, pour leur bien. Revêtez-vous d'entraille de miséricorde. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Vous voyez ? Se supporter, se pardonner, revêtir, se revêtir d'entrailles de miséricorde, de patience. Pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi? Parce que de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous savez, ces personnes déloyaux, comme on vient de dire, refusent de changer. Dur. Alors, il y a un lien. Parce que pour défendre leur position, ces personnes deviennent calomniateurs. Et calomniateurs, vous voyez, j'ai les mis en bleu. C'est pour dire, pour les 8 ou 9 traits de caractère des derniers jours, celui-là, il n'est pas précédé de préfixe A, privatif. Calomniateur, c'est le grec diabolos. Ça veut dire faux accusateur. Je viens de dire que des personnes déloyaux qui refusent de changer pour défendre leur position, ils deviennent calomniateurs. Pourquoi? Pour essayer de démolir la réputation d'autrui. Vous savez, calomnier, c'est mentir avec le but de salir, sinon détruire, l'honneur et la réputation d'autrui, d'une autre personne. Je dirais, la calomnie ressort d'un cœur venimeux, amer et rempli de haine. Et donc, c'est très frappant. Il est frappant que ici, l'adjectif, c'est exactement ce qui décrit le diable. Parce que le diable, diabolos, c'est accusateur. Et c'est ce qu'il fait à tout instant pour chacun d'entre nous. Il vient auprès du trône de Dieu et il nous accuse jour et nuit. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit, Apocalypse 12, 10. Donc, la calomnie, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la bouche du diable. Mais qu'en est-il du croyant? Évidemment, nous n'allons pas faire ce que le diable fait. Nous devons imiter notre Père. Donc, est-il permis aux croyants de faire du travail du diable? Évidemment que non, calomnie. Et vous savez, c'est très frappant que calomnier, dans le Nouveau Testament, Paul reprend à deux reprises, ça j'étais... Quand il parle de calomnie, il s'adresse aux femmes. Pardonnez-moi, aux femmes, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Et je veux vous lire. Le Saint-Esprit inspire Paul et écrit ceci en 1 Timothée 3:11. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes. On va continuer pour les femmes un peu plus âgées. En Tite 2:3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Évidemment, il est clair que la calomnie, la médisance ne devra pas sortir de la bouche d'aucun chrétien. Là-dessus, c'est clair. Mais pourquoi alors Paul parle ici d'être non médisante en s'adressant aux femmes? Juste, chercheur, ça montre que vous devrez être sur vos gardes. C'est une faiblesse et un péché commun chez vous. Et veillez sur votre langue. La parole est claire. Et ça ne devrait jamais sortir de la bouche d'un chrétien. La conduite à cet égard, Paul le donne dans Éphésiens 4, versets 29 et 30. Regardez. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est pour tous les croyants. Pas que les femmes. Tout. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que c'est ça qu'on doit cultiver quand nous sommes ensemble. Quand nous sommes ici tout à l'heure, partageons la communion fraternelle. Que on sorte de notre bouche une bonne parole qui serve à l'édification. Édification, c'est l'image de construire un bâtiment, une maison. Je construis dans la pensée de l'autre, je bâtis par la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu. Pour que sa vie soit à la gloire de Dieu. Et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Et il vient après, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Continuons. Ce qui caractérise les derniers jours, l'adjectif, on va revenir avec les préfixes privatifs, intempérant. C'est akratéis. Et kratos veut dire force, domination, pouvoir. Et donc, intempérant signifie donc sans frein, sans contrôle de soi, sans force morale. C'est-à-dire que les caractéristiques des derniers jours vont être peuplées par des personnes qui n'ont plus le contrôle sur eux-mêmes, sur leur pulsion, sur leur passion, sur leur désir. Et ne soyons pas surpris si ces genres de personnes participent dans toutes sortes de péchés sans avoir besoin de se sentir coupable en quoi que ce soit. Mais au milieu d'une telle génération égoïste, sans retenir sans honte, le Seigneur nous parachute comme ses enfants de lumière, je dirais, afin qu'on soit des exemples de maîtrise de soi, de moralité respectueuse. Je veux juste citer le fruit de l'esprit qui doit caractériser la vie de chacun des croyants quand ils marchent accepter d'être conduits par le Saint-Esprit dans leur vie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, je cite, la patience, la bonté, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, le contrôle de soi-même. Vous voyez? Et ce manque de contrôle qui va caractériser les derniers jours, vous savez, se révèle de plusieurs manières. Cruel. Il se manifeste par la cruauté. Cruel, encore, anuméros, et huméros, c'est doux. Et donc, cruel, littéralement, signifie sauvage et brutal. C'est le mot grec. Et vous savez, quand ces personnes déloyaux ne peuvent pas avoir raison, ils deviennent comme des bêtes sauvages, cruelles. C'est agissant selon la philosophie de la jungle, comme on dirait. tu te dresses dans mon chemin, je t'écraserai. Je te ferai sérieusement du mal s'il le faut. C'est la cruauté, brutalité. Et vous savez, la Bible nous donne des exemples à imiter. Je vous cite juste l'exemple de David. David a une occasion, poursuivi par Saül, qui veut le tuer, a une occasion, parmi tant d'autres, hein, pouvoir tuer Saül lui-même. C'est normal, il se venge. Il veut régler les comptes. Mais son exemple, c'est magnifique. David n'était pas un homme brutal. Comme je dirais, ses conseillers militaires, les fils de Seruja, vous connaissez, Joab, chef de l'armée de David, Abishai. Et nous lisons, juste pour vous donner l'exemple, quelle conduite nous devrions avoir à l'exemple de David. Saül voulait le tuer, il a maintenant l'occasion de pouvoir tuer Saül. Et regardez ce que nous lisons dans 1 Samuel 26, versets 8 à 11. Abishai, c'est le frère de Joab, c'est le chef de l'armée qui est très dur, c'est des hommes durs. Et Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains, parlant de Saül. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. Ça, c'est la brutalité. Ça, c'est... N'est-ce pas? Et regardez ce que dit David. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Ça, c'est ce qui doit caractériser les croyants face aux injustices dans ce monde. Face au mal qu'on peut subir. C'est pour ça, c'est pas pour rien que la Bible qualifie David de l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà le cœur de Dieu. Il est bon parmi les ingrats et les méchants. David, c'est l'homme qui vit selon le cœur de Dieu. Qui bat le cœur comme Dieu bat le cœur de Dieu, si je peux dire métaphoriquement. Il le vit. L'exemple de Jésus-Christ encore. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre qui sort son épée, l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur, il a coupé l'oreille. Et nous lisons dans Jean 18, verset 10, « Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Pierre voulait entraver la volonté de Dieu pour Jésus d'aller jusqu'au bout. Et Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ça, c'est l'exemple. Le cœur de Dieu, c'est ainsi. Et nous devrions agir de même, même face à des gens cruels. Un dernier, ce qui caractérise les derniers jours, ennemis de gens de bien. Là aussi, c'est le préfixe, donc, aphilagatoi. Philagatos, qui aime le bien. Et donc, ennemi de gens de bien signifie ennemi du bien, hostile à tout ce qui est vertueux et bon. Et même les hommes bons, n'est-ce pas? Qu'est-ce que veut dire que les gens de ces derniers jours n'aimeront pas le bien? Ou les gens de bien? Ça veut dire qu'ils auront l'audace de prendre ce que Dieu a créé et déclaré bon pour le déclarer mauvais. Il va le manifester par leur vie, mais il va le manifester encore plus ouvertement. Juste pour vous donner l'exemple, pour que ce soit concret dans notre société d'aujourd'hui, ces ennemis de gens de bien. Dieu a créé la vie. N'est-ce pas? Dans notre société aujourd'hui, le simple bien qu'est la vie est méprisé et attaqué. à l'état même du fœtus par l'avortement. Vous avez entendu aujourd'hui, dans toutes les beaucoup de quartiers de France, la violence gratuite qui peut finir par le meurtre, et dès très jeune âge. Et vous savez aujourd'hui qu'on s'attaque à la vie même vers la fin de vie. Aujourd'hui, il y a le projet de loi qui vise à légaliser l'aide active à mourir. La vie, le bien que Dieu accorde. Et maintenant, c'est méprisé. Et de plus en plus, ça va aller en crescendo. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous, vous allumez les médias, Internet, la radio, et bien voilà. Les gens sont ennemis des gens de bien. Tout ce que Dieu a créé qui est bien pour ses créatures, on va détruire. Je vais citer un autre exemple, l'autorité. J'ai pris la vie, maintenant l'autorité. L'autorité présentée dans la Bible comme une bénédiction de Dieu. Avec les hommes, nous étudions les dispensations que Dieu a, une manière de traiter les hommes de différentes époques par la dispensation, une administration. Et l'autorité, c'est une des bénédictions que Dieu donne. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en nous, il y a le potentiel de violence dans chacun de nos cœurs là. Et qui veut à tout prix accomplir ce qui est potentiellement dans son cœur. Mais merci Seigneur qu'il a mis des gouvernements, qu'il a mis une autorité pour protéger mon voisin, mon ami, ce qui est proche de moi, contre ce potentiel de violence, de méchanceté dans mon cœur. Et l'autorité est là pour ça. Et maintenant, vous savez, toute autorité est vue comme problématique. Hein, on préfère vivre comme au temps des juges d'Israël où chacun faisait ce qui lui semblait bon, n'est-ce pas? Et vous savez très bien, sans autorité, le résultat, c'est l'anarchie, le chaos, la confusion totale. C'est ce qui, de plus en plus, va en crescendo caractériser les derniers jours. C'est pour ça, s'il n'est pas choquant, nous sommes avertis par la parole de Dieu. On s'attaque à qui? À toute autorité. Les enseignants. On s'attaque à toute autorité. Les policiers, les gendarmes. Tout ce qui représente l'autorité de l'État. Et nous y sommes. En crescendo, aujourd'hui, dans notre époque. La question aujourd'hui, nous vivons dans ces temps des derniers jours de ténèbres et de confusion. La question, est-ce que les non-croyants qui vous connaissent au travail, voisinage, là où Dieu vous place, voient-ils une différence en vous lorsqu'ils vous comparent avec le monde? Par vos paroles, par votre attitude, par vos comportements, que nous ne sommes pas comme ce qui est décrit là. Est-ce que c'est une réalité dans notre propre vie? Le fait que vous êtes chrétien et que vous connaissez la volonté de Dieu produit-il une vraie différence dans votre vie au quotidien? Je vais m'arrêter. Nous avons vu 8, je dirais 9, traits de caractère qui forment un bloc par le préfixe privatif. Qu'est-ce qu'on ressort de ça quand vous regardez le PowerPoint, vous écoutez? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Et qu'on doit garder ici et dans notre cœur. N'oublions pas que le point de départ, c'est l'égoïsme. Vous avez dit la dernière fois, tous ces traits de caractère, c'est une ramification, une conséquence directe de l'égoïsme. Une vie centrée sur soi-même. Pourquoi? Parce que quand vous lisez ce que nous lisons, ces traits de caractère, en fin de compte, ça décrit qu'est-ce que fait un égoïste, comment il parle, comment il agit. Dans la société comme dans sa famille. C'est ça, ce que nous venons de voir. Quelque chose qu'il faut retenir. Les 8 adjectifs composés avec le préfixe ici nous montrent que le comportement égoïste a un impact sur le plan personnel. Ça, c'est la première chose. Des 8 et 9 traits de caractère que j'ai donnés là, le comportement égoïste a un impact sur le plan personnel. Pourquoi? Parce que les adjectifs rebelles, intempérants, sans contrôle de soi, cruel, ennemi du bien, pointe du doigt les conséquences de l'égoïsme sur nos comportements personnels, qui devient de plus en plus défaillant. C'est ce qu'on voit dans notre société. Ça, c'est le premier constat. L'égoïsme, on pense que l'égoïsme, c'est moi, ça ne touche pas les autres. Mais non. Ça a des conséquences sur nos comportements personnels. Et les comportements personnels, surtout des gens décrits dans les derniers jours, qui sont défaillants. Mais non seulement l'égoïsme porte des conséquences néfastes sur le comportement personnel, mais aussi sur le plan de nos relations avec les autres. Pourquoi ? Parce que les adjectifs ici, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, implacables, calomniateurs, qu'est-ce que font ces adjectifs-là ? C'est pour relater les difficultés des relations qui sont faussées avec Dieu et qui ont des conséquences sur la relation horizontale que nous avons avec nos semblables. Vous voyez? Et cela touche la relation intrafamiliale, le comportement dans la société, à cause de l'égoïsme de l'homme qui a rejeté le trône de Dieu dans notre vie, dans sa vie. Donc le message aujourd'hui pour nous, en tant que chrétiens, l'égoïsme est un des traits caractéristiques des derniers jours, fait de ravage sur le plan personnel et social, selon ces adjectifs. Qu'est-ce que je dois mettre en pratique pour ne pas laisser place à ces péchés, 8, 9 là, dans ma vie, et pour avoir la victoire dessus? Ça, c'est notre responsabilité. Qu'est-ce que je dois mettre en pratique pour éviter que ça contamine ma vie et que je contamine les autres et je détruis la vie des autres?